Alors, Borromini est aussi quelqu'un, alors ça c'est assez drôle, qui est célèbre. Alors, pour la petite histoire, il a toujours été un peu frustré parce qu'il a eu des petites commandes. Pendant ce temps-là, Bernin avait des grandes commandes. Donc, ils étaient en rivalité terrible. Je crois qu'il était très jaloux de Bernin, qui en fait était sculpteur, qui avait une reconnaissance beaucoup plus internationale. Mais à la limite, ce n'est pas très très grave. Alors, le thème de l'escalier. L'escalier, c'est un morceau de bravoure, on va dire, pour les architectes. Et là, ça se prête particulièrement au baroque, puisque par définition, l'escalier, c'est un spectacle, c'est un déplacement. Vous avez on va conquérir l'espace en passant du bas en haut, du haut en bas. On va tourner. Donc, si vous voulez, l'escalier, on pourrait dire qu'un escalier est appelé vers le baroque, hein, assez logiquement. Les escaliers à double spirale symétrique, comme à Fontainebleau, comme à Chambord, c'est au contraire l'idée de retrouver de l'ordre dans la symétrie, même si à Fontainebleau aussi des escaliers symétriques. Mais un escalier baroque, justement, qui va. Et donc, Borromini a fait l'escalier du palais Barberini à Rome. Est-ce qu'il y en a qui vont à Rome bientôt d'ailleurs? Non.
C'est un projet qui va se concrétiser.
À Rome, le Palazzo Barberini, il n'y a personne. Il est extraordinaire. Il y a des plafonds peints de Cortone, il y a ça, il y a des caravanes. Et il n'y a personne. Alors que si vous allez à la Galerie Borghese, vous pouvez y aller, vous n'avez droit qu'à une heure de visite. C'est très cher et ils sont pénibles. Et vous avez presque le même nombre d'artistes. Parce qu'il y en a un qui est public, c'est Barberini, et l'autre qui est maintenant privé, donc ils font plein de pubs. Bref, Barberini, c'est un peu un palais à l'ancienne. Qui est assez remarquable. Et alors, le coup de l'escalier, c'est ce qu'on appelle les morceaux de bravoure. Alors, celui de Borromini. Et alors, en plus, l'escalier, évidemment, vous avez des vues en plongée, en contre-plongée, en se déplacement. Et puis, il est d'une forme quasiment elliptique, tout en combinant avec la spirale. Hein, et avec un éclairage aussi zénithal. L'idée aussi d'une colonne par deux, hein, ça aussi c'est quelque chose qui allège peut-être un petit peu, au lieu d'avoir une colonne fixe comme ça, vous avez un élément un peu dynamique, hein, donc il est sobre. Donc l'escalier aussi, c'est intéressant parce que au lieu de se déployer en volume, c'est quelque chose qui décrit de l'intérieur, qui densifie un petit peu un espace donné. L'escalier, normalement, la cage d'escalier est très limitée, mais il s'agit de lui donner une ampleur un peu spectaculaire, justement. Et là, c'est assez clair. Alors là, regardez, il est quand même sur plusieurs étages. Et chaque point de vue est intéressant. On ne peut pas avoir un point de vue. Là aussi, c'est quelque chose de dynamique. Alors, on n'est pas du tout dans une église. Vous voyez que l'art baroque a des déclinaisons, y compris dans les espaces publics, hein, qui ne sont pas du tout profanes, comme par exemple ici. Et voilà de côté, hein, ce que ça donne aussi, avec quasiment des. Comment on appelle ça, presque des fonctions. Des mathématiciens.
Des intégrales. Une
intégrale, oui, avec ces courbes-là. Alors, il y a un peu d'inflexion ici, etc.
Spirale.
Non, mais là, comme ça, quand on passe, il y a une asymptote, là, puis après, il y a une autre asymptote, et l'inflexion. Bref.
C'est des nouveaux concepts à définir.
C'est pas une hyperbole, parabole, mais... Donc vous voyez qu'il n'y a pas un point de vue unique, toujours tonique, dynamique, et puis tout à fait dans le. Alors voilà encore un autre point de vue, en plongée. Mmh.
Voilà. Et on voit. Fait...
Ah oui, il fait 4 niveaux.
4 niveaux.
Le palais, au moins, hein, même si on regarde, c'est facilement ça. Hein. Mais donc, les palais romains sont. Comme il y a beaucoup d'espace, ça y va. Donc là aussi où c'est vraiment intéressant avec l'art baroque, c'est qu'on voit comment un vocabulaire peut s'emparer de détails, hein, et faire fonctionner, donner une cohérence à des bâtiments. Parce que l'escalier, la décoration, la façade, la lumière, tout finit par faire un système. C'est en ce sens-là d'ailleurs que l'art baroque est assez cohérent, hein, y compris alors, dans l'architecture, c'est peut-être le mieux. Puisque on est dans le déplacement, on est dans la lumière, on est dans les points de vue. Donc ça aussi c'est assez clair. Et voilà encore une autre photo. Wow. Et en fait elles sont toutes stupéfiantes. Et là aussi, donc il n'y en a pas deux pareilles. hein, comme si on pouvait passer son temps à passer à l'escalier, à photographier tout le temps. Donc, ça, c'est aussi une densification de l'espace limité. C'est petit. Mais la multiplication de points de vue sur un espace limité, c'est un peu comme si, au lieu de se déployer dans l'espace infiniment grand, il se déploie dans l'infiniment petit. C'est qu'en fait, un espace donné peut être aussi exploré en étant densifié. Alors ça, c'est aussi quelque chose, ça fait penser à Blaise Pascal, hein, sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, puisqu'effectivement, l'idée que l'infini est dans l'espace, mais est aussi en soi. Donc on peut aussi être sombré dans une sorte d'infini en soi, donc on peut trouver l'infini, y compris dans des objets apparemment petits et finis, dans des corps un peu petits. Et l'être humain étant justement une sorte de repère entre les deux. Bon, une espèce de cœur d'une balance au bras qui n'arrête pas de s'allonger, je trouve. L'un hein, vers l'infiniment grand, l'autre vers l'infiniment petit. Ça, c'est assez typique. Donc, comment densifier un espace petit, c'est aussi une question baroque qui n'est pas inintéressante. Et on pourrait presque voir l'escalier de Borromini comme ça. Alors, Borromini est aussi quand même... Ah, j'aurais dû les agents, j'avais oublié qu'elles étaient de mauvaise qualité. Il est l'auteur de la façade de la très célèbre église de Sainte-Agnès qui est sur la place Navone. La place Navone qui est faite sur un ancien cirque romain, enfin cirque course de chevaux, pas un cirque de spectacle. Alors il est surtout l'auteur de la façade. Il y a plusieurs artistes qui ont travaillé sur le plan de Sainte-Agnès, mais c'est surtout lui. Alors attendez, je vais vous présenter une autre image parce que celle-ci est vraiment immonde. Sainte-Agnès sur la place Navone, Piazza Navone, c'est vraiment la place baroque de Rome par excellence. Et alors, il avait quelque chose qui était moins libre, on peut dire monumental, parce que la place est très grande. Alors, elle est toute allongée, parce que c'est un ancien cours de chevaux. Et alors, elle, on est vraiment dans un spectacle extraordinaire. Il fallait quand même signifier, et c'est très beau que cette façon parfaitement réussie d'inclure une église, quand même, cette fois-ci, avec une façade qui est très grande, avec des clochetons, une tour centrale, hein, dans le plan général de la place Navone. Alors, on retrouve son vocabulaire habituel, ici, hein, contrepoint, les formes horizontales, les formes courbes, les tympans triangulaires, les tympans courbes, etc., qui sont même alternants. Regardez, triangulaire ici, et... donc, courbe et triangulaire ici, là inversement, courbe et triangulaire sur les côtés, hein, et vous avez aussi trois formes, triangle, cercle, carré, hein, donc cette idée aussi, clac, 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 à chaque fois on change les registres, on multiplie les références, on a les décrochements, là vous avez une base de tourelle qui est à section carrée et là est section plutôt courbe, et à chaque fois vous avez ce jeu-là, donc c'est assez discret, parce que le volume lui-même, c'est un volume assez identifiable, assez géométrique, mais dans un volume qui, je crois, lui était donné, lui, il a introduit un décor dynamique. Un décor dynamique qui va très bien dans la place, qui est vraiment c'est un spectacle total, dans lequel vous avez aussi les obélisques avec les sculptures qui sont faites par le concurrent de Bernin, voilà. Les sculptures du Bernin sur les fleuves. Donc là, il s'agissait quand même, il était un peu en concurrence, quoi, les deux rivaux baroques de Rome. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de remarquable. Alors, ce qui fonctionne très bien, c'est le concave de la façade ici, et au contraire, le contrepoint du plan central et de la tour. Alors, on trouve la lanterne, comme toujours. Ça, c'est classique. Alors, de nuit. Les éclairages, oh là là, les documents, au secours, je passe, c'est affreux. Et alors voilà, la fameuse place, un peu. Alors, vous voyez bien aussi qu'elle est tout en long, donc là aussi, vous avez ce jeu, comment on découvre. Alors, ça fonctionne très bien, parce que comme la place aussi, on ne la voit pas de face, la façade en étant en creux, justement, elle rompt avec l'ensemble des autres figures. D'un coup, chac, vous avez une sorte de. Décalage, comme s'il y avait un déplacement hein, qui va une rupture dans cette espèce de grande place très homogène. Alors, c'est la grande place, vous connaissez sans doute. Qui... Alors, Juste un truc, hein, c'est quasiment toutes les églises que j'ai montrées, elles sont autour de la place Navone. Hein. Toutes les petites églises qu'on voit, elles sont vraiment juste à côté. Donc, quand vous se baladez dans ce coin-là, vous avez quasiment tout qui est à côté. Et c'est juste derrière la place Navone que Giordano Bruno a été brûlé. Donc, on est au cœur de... Là, il y a un concentré, et le Panthéon, je ne sais pas si vous savez, est juste à côté aussi. Donc, rien qu'en étant dans ce secteur, on fait des siècles d'histoire assez prodigieux. Et voilà, la tenue, ça c'est un peu mieux. Alors les éclairages, par exemple, révèlent. Alors là aussi, antérieur. Bon, ça... Ah oui, alors ça c'était juste des... Ça c'est... Alors ça c'est une église. C'était normalement fait pour être après. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, voilà. Maintenant, je change d'artiste, parce qu'en fait, il n'est pas le seul. C'est en ce sens-là aussi que l'art baroque est intéressant. Alors, les petites chapelles, l'air de rien, c'est, je ne sais pas si vous connaissez cette expression aussi en architecture, on parle des folies, une folie architecturale, et par la suite des architectes. Pour expérimenter leur art, un architecte, c'est compliqué. Un sculpteur, il peut faire des brouillons, il peut faire des maquettes. Un peintre, il fait des croquis. Un architecte, c'est un peu embêtant. Donc, souvent, ce qui permet à l'architecte de s'entraîner, c'est des projets plus modestes. Des projets comme, par exemple, des petites chapelles ou des villas privées. Ce qui était le cas, par exemple, pour Palladio. Hein, c'est le cas de ce qu'on appelle les folies, où ça va être une fontaine, ou ça va être des petites choses. Donc, lui, les façades, les petites chapelles, c'est aussi l'occasion pour un jeune architecte de s'entraîner, parce que l'architecture, elle est pérenne. Hein, en plus, elle est soumise à des contraintes de finances, de goût, de commande, de pérennité, elle sera là pour des siècles. Donc, si vous voulez, on a quand même une pression énorme sur l'architecte par rapport à ce qu'il fait. Donc, la modestie de certains projets est parfois la garantie, je trouve, d'une certaine audace, puisqu'ils peuvent plus se permettre d'être audacieux dans des petits projets. Alors là, il s'agit de Pierre de Cortone, qui lui est aussi un grand peintre, c'est un des peintres, des grands plafonds peintres, c'est quelqu'un de très, très doué. Et voilà Santa Maria de la Pace, Sainte-Marie donc de la Paix, hein, qui est toujours alors tout à côté, hein, dans Rome. Alors, vous voyez que c'est le même vocabulaire, mais établi avec, au lieu d'être un peu très fragmenté, il est très affirmé, hein, de façon très très claire. On trouve encore un demi-cercle en fronton. Hein. Vous avez encore ici, alors là, les alternances sont quasiment imbriquées, entre courbe et triangle. Les décrochements légers, regardez la corniche du tympan qui se décroche très très légèrement, et des formes convexes et concaves qui sont plus légères. Donc c'est un peu moins lyrique, moins dynamique que Borromini, mais ça reste toujours le même type de vocabulaire. Alors en fait, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que justement, cette église, la façade que je vous montrais, c'est une église d'un couvent. Et le cloître du couvent a été fait par Bramante, le grand architecte de la Renaissance. Donc vous avez aussi des imbrications parfois d'époque, de grands architectes. Bramante ici, qui était vraiment au contraire l'ordre renaissant très structuré. Hein, et vous avez donc ici Cortone vient s'inscrire dans un bâti qui existe déjà. Donc ça explique peut-être aussi pourquoi il est moins dans l'excès aussi. Parce qu'il y a quand même une articulation avec quelque chose qui existe déjà.
Alors, on demandait que tu mettes des personnages comme ça, dans les balcons, un peu, pour montrer que c'est plus vivant que...
Ah, oui, je pourrais. Hein. Ah ben voilà, les personnages, ici. J'ai récupéré ça sur Internet, donc je ne sais pas qui est le couple qui a posé devant. Mais ils ne savent pas qu'ils sont montrés comme ça. Alors, vous voyez que c'est petit, mais c'est parfaitement réussi, et là encore, le propos est très très clair, hein, entre alternance, décrochement, mise en scène de la façade, et puis quand même, derrière, vous avez une façade en creux, hein, donc quelque chose qui s'avance, et ça aussi, c'est vraiment très subtil. Alors, il y a moins de dynamisme un petit peu lyrique, flottant comme ça, on n'est plus dans le drapé, mais on est quand même dans une rythmique. Hein, ce qui est clair dans le baroque, c'est le rythme. Hein. Alors moi, je ne connais pas assez la musique baroque de façon savante, mais je crois que les gens disent qu'en musique baroque, il y a toujours cette idée du point, du contrepoint, etc. Il y a... Bon.
Voilà. Je peux
ce que je peux vous dire, c'est que la danse baroque, c'est effectivement beaucoup de figures, beaucoup de vélocité dans les pieds.
Oui.
Et c'est vraiment très très enlevé, très rapide. Pas du tout évident. Moi, j'en ai fait un peu de danse baroque et franchement, c'est une technique dont on n'a pas l'habitude.
D'accord.
On parle du ballon, c'est-à-dire qu'il faut vraiment...
Oui. D'accord.
Avec des mimes, des sourires, des regards.
Ah oui, d'accord. Donc, clac, des...
Oui.
Alors, après, dans ce qu'on appelle baroque, je dis, parfois, on considère que, je sais, marin, marraine, enfin, tous ces... Les trucs très un peu austères, et il y a une mystique baroque minimaliste, mais il y a un baroque, on va dire, lyrique. Hein, c'est là aussi, on est parfois dans des explorations. Alors voilà, le dialogue avec Bramante, vous voyez bien la différence. Une architecture renaissance, elle est extrêmement codée, établie, lisible, fonctionnelle et presque minimaliste. Il ne s'agissait pas du tout d'être dans le spectacle, mais on est au contraire vraiment dans harmonie et raison, avec des citations très claires, hein, l'ordre ionique et l'ordre corinthien ici. Bon, même si on passe du cercle au carré, là, on n'est pas du tout dans le lyrisme baroque. Alors voilà encore une photo. Voilà celle-ci, je l'ai montrée. Alors voilà une gravure donc, l'époque. Comme ça, pas tellement changé. Hein. Alors, ce qui est assez quand même drôle, c'est que vous avez vu que sur plusieurs églises baroques, oui, la façade, mais on ne voit pas le volume. Hein, dans toutes celles que je vous ai montrées, on n'a pas connaissance. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur pour comprendre l'église. À la limite, le volume extérieur, c'est comme si on dévoilait une part un peu triviale du bâtiment. Et, la scénographie, veut dire, quelque part, c'est aussi le spectacle comme un rideau de spectacle. D'ailleurs, il y a une façade comme un rideau, et on rentre sur une scène, et là, il va se jouer quelque chose, etc. Mais on n'a pas à aller regarder les coulisses, etc. Alors qu'une église gothique, une église de la Renaissance, on va la prendre comme un tout, un bâtiment, enfin, un ensemble, on va comprendre la nef, on va comprendre ses parties. Hein, on n'est pas dans l'espèce de lyrisme. Et puis cette idée qu'on est invité à rentrer dans quelque chose comme ça. Alors il y a une autre de Pierre de Cortone que je trouve pas mal, c'est... Alors, c'est bizarre, parce qu'au début j'avais vu juste cette photo, ça ne me disait rien. C'est Saint-Luc et Martin sur le forum antique. Alors là, c'est vraiment pas mal. C'est toujours de Pierre de Cortone. Toujours une petite façade. Alors vous voyez toujours, hein, maintenant je vais pas répéter à chaque fois, le principe de décrochement, d'animation de la façade, etc. Et celle-ci, en fait, elle est vraiment intéressante aussi parce que elle est là. Alors en fait, vous avez la façade ici. Là, vous avez la coupole qui est, elle, plutôt de type Renaissance. En fait, elle est face aux arcs de triomphe et au forum, dans la voie la plus importante du forum romain. Donc, vous avez ici un dialogue direct avec l'antiquité romaine. Hein, alors que l'âge baroque, normalement, s'écarte un petit peu de la Renaissance. Hein, donc là, il s'agit quand même de dialoguer, mais avec quelque chose qui n'est pas forcément la référence principale des artistes baroques. Hein, et là, vous avez un dialogue qui fonctionne parfaitement. Hein, entre ici l'architrave de l'Arc de Triomphe. Hein. Alors, il y a un point commun quand même, c'est que l'art romain, c'est un art déjà du spectacle et de la parade. À la différence de l'art grec. L'art grec, c'est un art logique, puisque c'est perpendiculaire. Tout ce que vous voyez fonctionne, c'est colonne, poutre, tympan. Il n'y a aucun mensonge. Dans l'art romain, on est quand même aussi pas mal dans le mensonge, parce que c'est de la brique recouverte par du marbre. Une bonne partie des éléments que vous voyez sont des parties qui ne servent à rien. C'est-à-dire les colonnes ici et les architraves sont que de marbre plaqué. La vraie structure, c'est de la brique et c'est de la voûte. Donc, vous voyez, il y a quand même dans le spectacle romain quelque chose que les baroques vont reprendre. C'est cette idée aussi d'une architecture qui ment, hein, le plaisir du mensonge. Et d'ailleurs, une chose qui sera quand même commune avec l'art baroque et la culture romaine antique, c'est vraiment le trompe-l'œil, le jeu de se tromper. Ça, on verra dans la peinture. Donc là, c'est une façade très intéressante. Hein, alors, juste une chose, parce qu'en fait, la Renaissance, alors là, on voit très bien l'inscription dans le forum, je ne sais plus si c'est là, Titus, je ne sais pas. Là, il y a le Capitole derrière, etc. Alors là, on voit bien aussi que c'est la façade qui prime. Et c'est vraiment... Alors c'est assez discret, parce que là, on peut dire que les courbes, ce qui était peut-être typique, l'espèce de dynamique baroque, elle est très limitée ici. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'artiste s'est un peu assagi en termes de rupture. C'est très léger, vous avez le léger gonflement ici en légère courbe de la partie centrale de la façade, mais c'est très léger. Et là, en contrepoint, plongée, on voit un peu mieux qu'il y a une légère ici contrepoint et légère convexe ici, hein, mais c'est très léger. Alors là, il y a le dialogue, hein, mais les photos sont intéressantes parce qu'on voit bien quand même les clins d'œil, la façon dont l'artiste quand même s'inscrit dans un passé malgré tout. Hein, donc il y a. Mais c'est beau aussi la continuité, évidemment, de Rome. Alors, autre chose, hein, c'est la brique. Hein, la brique, c'est quand même une continuité, et ça, c'est clair. Alors, ça. Ah oui, ça, c'est un artiste que je connais. Hein, Carlo Fontana. C'est un autre artiste, architecte baroque, Carlo Fontana, qui fait moins parler de lui, qui a souvent été contributeur. Et vous voyez encore une autre version. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé, mais c'est quelque chose, c'est une formule qu'on va trouver très souvent. C'est les contreforts qui sont ici en courbe. Hein. Ça, c'est quelque chose. Vous avez ici la courbure, hein, convexe. Là, vous avez les tympans cassés qui, tout à coup, aussi sont des décrochements. Là aussi, un niveau, deux niveaux, trois niveaux de décrochement sur la façade. Et puis, vous avez aussi ça que l'on va trouver très souvent, c'est les contreforts un petit peu en courbe. Creuse en creux, hein, au lieu d'être en plein, il y a un terme pour ça, et qui se répondent avec le tympan ici, qui est ici, dans un sens et là dans l'autre. Là, vous avez une sorte de réponse du tympan au contrefort. C'est une formule qu'on trouve très très souvent ensuite dans l'art baroque, et même généralisée. Et là, on voit bien voilà, cette courbe-là et la courbe inversée ici. Là, on voit mieux aussi la courbure, hein, en creux, et encore les décrochements. Alors, ça, c'est Carlo Fontana, un peu plus récent, hein. Quelques dizaines d'années après Borromini et Berlin, mais toujours, je passe, je ne sais pas pourquoi là, c'est tombé là de la Pace, et ça, bah, ça c'est une erreur. Alors, juste pour vous montrer autour de Borromini et de ce que je vous ai montré, un petit retour, ça c'est l'escalier monumental de Bramante qui est au Vatican, hein, quand vous allez à la pinacothèque du Vatican, au musée du Vatican, c'est cet escalier qui, lui, était de forme circulaire, hein, mais qui est assez exceptionnel. Hein, donc, ça, c'était un petit clin d'œil toujours à Bramante. Hein, c'est la rue. Et c'est un escalier qui n'a quasiment pas de marche. Alors, il y en a plusieurs comme ça. C'était peut-être pour amener des chevaux. Hein. Vous avez ça en bois, vous avez ça en Aracène. Vous avez pas mal d'escaliers gigantesques comme ça qui étaient pour qu'on puisse y aller à cheval. Et alors,
C'est
bien sûr, la spirale du Guggenheim, tous ces trucs-là. Oui, c'est. Bah, en fait, on peut regarder le passé. Hein. Et c'est immense, hein, vous avez vu la taille de la personne qui est là. Donc, je ne sais pas combien de niveaux. 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. Alors, il y a l'ascenseur pour descendre, mais c'est mieux de progresser, ce qu'il dit. Donc Bramante, c'est l'artiste de la Renaissance. Vous voyez qu'il y a un passage aussi. Ouais. Là, au contraire, on est beaucoup plus
haut. Il n'est pas circulaire, celui-ci.
Il est de plan de section circulaire, celui-là. Ouais. Alors évidemment, il tourne.
spirale,
forcément. Voilà d'autres points de vue. Voilà. Alors maintenant, on revient à quelqu'un comme le Bernin. Alors le Bernin, c'est le grand artiste d'Europe, sculpteur, architecte, qui a même travaillé. À Paris, oui, qui appelé par Louis XIV, vieillissant, etc. Et là, vous voyez d'ailleurs, c'est très proche de celle de Cortone, hein, avec un tympan là. Ça, c'est Saint-André du Quirinal. Alors, celle-ci est intéressante parce qu'on voit un peu plus l'extérieur. Bernin, là-dessus, laisse un peu plus voir et joue plus sur l'église dans son ensemble. Elle est, on va dire, dégagée un petit peu. Du tissu urbain. Et là, on la voit un peu mieux. Et d'ailleurs, il soigne beaucoup la partie centrale, comme par exemple là, mais avec toujours le même vocabulaire. Alors, Bernin, c'est quelqu'un, alors là, qui monumentalise, à la fois c'est monumental et en même temps c'est minimal, il n'y a que deux colonnes à chaque fois, il y a juste une petite avancée en rotonde et un tympan très massif. Hein, donc vous voyez que c'est intéressant parce qu'on peut voir ce même vocabulaire peut être fractionné en petits signes un petit peu, ou au contraire poussé jusqu'à une sorte de minimalisme d'affirmation de principe simple. Ici vous avez vraiment pilastre, colonne ronde, cercle, carré, etc. Cercle, carré et triangle. Donc Bernin a une conscience parfaite de ce avec quoi il joue, hein, et comment il brise légèrement les codes de la Renaissance et il en joue, mais sans la légèreté, un petit peu la frivolité, hein, ça c'est remarquable. Alors Bernin, il sera habitué aussi quand même à travailler avec les héritages Renaissance. Hein, c'est lui qui va faire la grande colonnade qui est sur la place Saint-Pierre. Hein, donc c'est quelqu'un aussi qui a vraiment une grande culture et une très grande connaissance. Donc et lui, il s'inscrit aussi dans la continuité.
Hein, Bernin, l'escalier, c'est lui qui l'a fait aussi.
Celui-ci?
Oui.
De là
ouais.
Oui,
c'est
oui.
Rigolo,
oui. Alors ça, c'est beau aussi. Ça. Alors l'escalier, alors, non seulement c'est lui, je crois que c'est lui qui a fait aussi l'escalier de la place d'Espagne. Donc, c'est un spécialiste à Rome, donc la grande place d'Espagne, qui va, donc Bernin, c'est aussi un metteur en scène. Hein. Et les escaliers, c'est évidemment... alors cette photo, elle est remarquable, parce que vous avez vu le jeu de forme, hein, on voit la danse des formes et des volumes, des façades qui se dilatent vraiment. Un volume petit, mais tchouk 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 tchouk, quelque chose qui est vraiment presque de la sculpture. Et il joue même là sur les couleurs. Et alors à l'intérieur, un certain nombre du canal, là on retrouve l'ellipse. C'est d'autant plus surprenant que de l'extérieur, on ne percevait pas la forme comme elliptique, hein, parce qu'on ne la percevait pas dans son ensemble, le tambour, si vous voulez, du bâtiment. Et là, on n'avait pas d'ellipse. Donc, il y a aussi un effet de surprise de rentrer et de trouver l'ellipse. Et une ellipse, même ici, peut-être plus affirmée. Alors, à l'intérieur, on trouve le même. Alors, le Bernin, bon, ça, je passe un peu. Alors, voilà, c'est lui qui a conçu ça aussi. Ou alors, là où il est génial aussi, c'est lui qui a conçu la grande place, la colonnade du Bernin. Et vous voyez qu'il casse aussi la symétrie pure. On n'est pas dans un rectangle, c'est un trapèze. C'est... Alors, je ne sais pas si c'est un cercle. Je crois que ce n'est pas un cercle parfait. C'est légèrement ouvert. Hein. Ce n'est pas orthogonal. Donc là aussi, il y a vraiment quelque chose qui joue sur la dynamique et sur les effets justement de surprise ou de perspective. Parce que si vous n'êtes pas orthogonal, vous avez des perspectives accélérées ou ralenties. Puisque vous croyez que c'est plus grand ou alors plus petit. Vous pensiez, l'idée d'avoir une perspective, des décalages comme ça. Donc c'est quelqu'un qui va être avec des éléments minimalistes, mais qui en joue avec une remarquable conscience. Et puis il y avait aussi cette idée de créer des places. Hein. Ça aussi, on a vu comment mettre en scène, hein, comment se diriger vers une façade. Ça peut être en petit, comme sur Saint-Yves de la Sapience. Saint-Charles ou Saint-André des Carfontaines, je ne sais jamais. Où là, il y a une petite place, mais en même temps, à chaque fois, vous avez cette manière de se placer devant le bâtiment. Et là, il va utiliser ça pour la grande basilique. Alors, il y avait une nécessité, c'est que la basilique Saint-Pierre, on ne pouvait pas en faire le tour, parce que c'était le palais du Vatican qui était donc fermé. Donc, l'idée de scénographier la façade, c'était essentiel. Une cathédrale, tour, les Douros, partout en Florence, partout on fait le tour. Là, vous avez l'idée d'une basilique sacrée, résidence du pape, donc il fallait trouver un dispositif pour sacraliser un petit peu l'extérieur. Alors, on continue. Alors voilà, cette idée un petit peu légère. Alors, là, on est dans un baroque subtil, hein, chez Bernin. Alors voilà, la place d'Espagne, c'est lui qui a encore conçu un escalier, c'est-à-dire que vous avez vu aussi un sens de l'espace prodigieux, comment le rendre mobile, fluide, spectaculaire, où on invite au déplacement dans l'espace, et y compris quand vous êtes dans des espaces de Bernin, des espaces baroques, à chaque fois on se dit, mais on est obligé de l'expérimenter de différentes manières. Soit d'en faire le tour, soit d'aller au milieu, de se retourner, etc. On est obligé de multiplier les approches. Et cet escalier qui est justement irrégulier, hein, qui semble faire des tours et des détours pour aller jusqu'à l'église de la Trinité des Monts, voilà. C'est la place de l'Espagne qui est en bas. Et alors évidemment là, on va dire que les auteurs jouent parfaitement le rôle de scénographie. Hein, puisque plongée contre plongée, escalier, alors que ce soit les petits escaliers ou les escaliers intérieurs ou les escaliers extérieurs, là aussi. Alors Bernin, c'est aussi l'auteur des sculptures des fontaines. Alors là, on a quelque chose, la sculpture elle-même, le thème de l'eau et des forces des fontaines, des quatre grands fleuves du monde, ça c'est un thème assez classique, mais vous avez évidemment la rocaille, qui est un peu une sorte d'accident, de choses de nature brute. Alors ici, je ne sais pas quel est ce fleuve ici, parce que vous avez l'Orénoque ou le Mississippi, le Danube, et en général, vous avez des... Bon, c'est pas très grave. Et alors les postures des personnages qui sont, si vous regardez bien, penche en avant, penche en arrière, là aussi vous avez quelque chose qui est typique du baroque, que Michel-Ange avait introduit avec ses... dans le plafond de la chapelle Sixtine, personnage penché en avant, en arrière, c'est quelque chose qu'on trouvait de plus en plus dans la peinture, les plafonds peints, la peinture maniériste, la peinture baroque, où vous avez justement ces... décentrement, mouvement, et là on voit très bien. Et puis, forme brute, forme savante, etc. Alors, il est aussi l'auteur, le Bernin, du baldaquin de Saint-Pierre. C'est quelqu'un qui va aussi, on va dire, baroquiser. Après, Saint-Pierre était vraiment le temple de la Renaissance, absolument parfait. Il le rend plus lyrique, un peu plus dynamique, parce que il réussit quelque chose d'absolument fantastique. Je sais pas, vous êtes déjà allé à Saint-Pierre-le-Grand ?
Non.
Alors, quand vous êtes à l'intérieur, on dit, je crois que c'est vrai, c'est on pourrait mettre Notre-Dame dedans. Donc, moi, à chaque fois, c'est hallucinant. Quoi. Donc, il y a un moment où on perd, mais c'est trop vaste, trop grand. Et en faisant le baldaquin, il réussit à trouver, à faire quelque chose à la fois monumental, qui est dynamique avec ses spirales, et qui permet d'établir le lien entre la monumentalité hallucinante de la croisée de transept ici, de la coupole, et puis l'échelle humaine, hein, et donc il établit effectivement un lien dynamique, hein, qui élève vers la coupole. Parce que sinon, s'il n'y a pas ce lien, on est presque trop écrasé, c'est presque trop grand. Et là, vous avez avec Bernin un baroque très humain, hein, un peu comme un jeu très subtil à chaque fois. Alors, on n'a pas forcément le droit d'y aller, surtout s'il y a le pape qui est dessous. Mais quand on est en dessous, il paraît très grand. Mais si vous allez dans la coupole et que vous allez sur la tourelle qui est au-dessus de la coupole, il paraît tout petit. Donc ça donne une idée de l'échelle du bâtiment qui est assez prodigieuse. Donc vous voyez, alors Bernin, là aussi, c'est quelque chose qui est à la fois quatre piliers, donc est très régulier, mais dans cette régularité, c'est lui, c'est un de ceux qui invente la colonne torsadée, donc une sorte de spirale intérieure. Voilà. Donc on se retrouve l'idée un petit peu aussi de l'escalier, de la dynamique et de la spirale. Alors là, on est vraiment dans le baroque. Alors, Saint-Pierre, il y a Bramante, notamment, hein, qui est donc un des grands architectes de... Alors, ça s'est fait sur... Il y a Michel-Ange, qui a travaillé à la coupole, et en partie à la façade. Et puis, je ne sais plus qui exactement, mais souvent, c'est Bramante, Michel-Ange, Bernin. C'est quand même pas des... Et puis, certainement d'autres. Mais c'est Michel-Ange la coupole, essentiellement. Donc, c'est quand même pas n'importe qui. Et Bramante, donc, qui dit tout, était l'oncle de Raphaël. Donc Bramante est un peu avant, hein, parce que Saint-Pierre existait depuis quasiment la période de l'Empire Constantin, Constantinople, etc. Donc c'était une basilique avec un toit en bois, et qui a été rénovée régulièrement, et ensuite il a été décidé, à la Renaissance, d'en faire un bâtiment totalement nouveau. Mais ça a duré, c'est un chantier gigantesque qui a duré quasiment des siècles. Et puis il y avait l'enjeu d'en faire le temple du monde. Alors, donc c'est ok, je continue 10 minutes, c'est ça. Hein. Alors, alors oui, Bernin, rappelez-vous, c'est aussi le sculpteur de l'extase mystique de Sainte-Thérèse, hein, dans sculpture baroque. hein, Sainte Thérèse qui est en dilatation totale du drapé. Attendez, je crois qu'on la voit mieux. Ah ben non. Mais je crois qu'on l'avait déjà vu ça. Hein. L'extase mystique de Sainte Thérèse. Alors, attendez, ça je passe. Je passe. Alors oui, voilà, d'autres églises baroques un petit peu, alors plus lyriques, hein, il y a moins de retenue, parce que ce qui se passe avec l'art baroque, c'est que à partir du moment où on lâche la bride, on dit qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de raison, il y en a qui vont s'engouffrer là-dedans, et ça va devenir parfois un engorgement baroque, jusqu'à un délire, et parfois malheureux, parfois heureux, comme on dans l'église des jésuites. Jésuites, il y a deux églises à Venise, il y a une Jésuiti et Jésuati. Jésuiti est au nord, Jésuati est au sud. Hein, une vénézienne qui est vers Torcello et l'autre qui est vers Giudecca. Alors celle-ci, c'est celle qui est vers Torcello, donc vers le nord. L'intérêt, c'est qu'elle va être le délire baroque, si vous voulez, de saturation, d'excès, de dilatation de l'espace, est pondéré donc, par le noir et blanc. Hein, donc il y a une sorte de retenue qui fait que on est dans quelque chose qui est un peu atténué, hein, l'excès est atténué par un graphisme et uniquement du marbre noir et blanc. Parce que sinon, les ors baroques, hein, voilà, par exemple, ça c'est toujours les Jésuiti à Venise, sa façade est très très discrète par contre, hein, et à l'intérieur, alors, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Là, les spirales, les volutes, maintenant c'est plus les spirales, les torsades, ici les colonnes sont exagérées, et puis là, les baldaquins, les figures, les contrepoints sont systématiquement explorés. Et voilà ce que ça donne aussi. Donc, l'idée d'utiliser aussi l'or, l'argent, etc., tout le travail, c'est idéologique. C'est théologique, hein, c'est l'idée qu'il n'y a rien d'assez beau pour Dieu, que les protestants nous embêtent avec leur austérité, leur Dieu un peu trop sérieux, leur Dieu qui n'a pas besoin de peinture, ni d'église, ni d'or, etc. On s'en fout complètement, non seulement on s'en fout, mais plus on en fait, mieux c'est. C'est vraiment un délire irrationnel, hein, qui est assez stupéfiant, hein, de comment ils peuvent assumer cette attitude-là. Alors, c'est pas que du blanchiment d'argent, parce que c'est quelque chose, il n'y a pas de rendement direct, quoique, on va dire, mais ils ne vendent pas, donc il y a une vraie part mystique, hein, religieuse, qui est quasiment incontestable, mais qui peut choquer, évidemment, hein, qui choque surtout les pays du Nord qui sont plus rationnels, qui font que l'argent c'est lié au travail, l'argent c'est fait pour être investi, l'argent c'est fait pour être transformé. Mais pour les catholiques romains, c'est une approche totalement chiante et qui ne correspond pas du tout à une économie quasiment presque médiévale sur laquelle on s'en fout un petit peu de la redistribution et de l'investissement. Donc, puisque la tradition italienne aussi, c'est qu'ils sont là depuis des millénaires, donc c'est pas 10 ans de placement qui vont. Donc il y a quelque chose de gratuit, et surtout à Venise, la richesse est partout, donc à la limite, la meilleure chose à faire, la richesse, c'est de la transformer en œuvre. Ou après, alors ça, les auteurs, alors justement, il y a un moment où les artistes baroques, comme le vocabulaire est relativement simple, comme l'idée est relativement simple, c'est enfin, assez simple, c'est une règle du jeu assez simple. À un certain moment, on ne sait plus qui fait, parce que c'est les gens qui jouent à ce jeu baroque, donc c'est là. Vous avez vu le vocabulaire, hein, point contre point, spirale, décrochement, sel, voilà, saturation, on y va. À partir de là, on ne sait plus forcément. Il n'y a pas d'affirmation, et comme on est dans l'irrationnel, on n'est pas dans la raison, il n'y a pas l'idée d'un artiste qui présenterait un point de vue sur le monde. Hein, les artistes baroques, d'ailleurs on les connaît pas beaucoup de noms, Gaoli, comment il s'appelle, Andrea Pozzo, Borromini, on oublie un peu son nom, Pierre de Cortone, bon, un peu moins, mais encore, et même le Pierre de Cortone qui fait aussi des plafonds peints, moi je ne sais pas repérer un plafond peint de Pierre de Cortone d'un autre. Parce que vous voyez, le style importe peu, ce qui compte le plus c'est le vocabulaire. Et puis c'est l'idée que justement on est emporté. Donc il ne s'agit pas d'affirmer un individu là, Là, au contraire, on est vraiment dans quelque chose qui, qui fusionne tout. Donc, ça serait un peu prétentieux de... Et voilà encore.
Mais il y a qu'en Italie qu'il y a des choses comme ça.
Le baroque, oui, Italie et Sicile, oui. Italie, c'est l'Espagne. Vraiment le...
Comment ? L'Espagne, non ?
Alors, Espagne, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a du baroque espagnol, mais il est moins drôle. Parce qu'en Espagne, il y a toujours le... Oui, alors en Espagne, c'est vrai. Parce que là, effectivement, le côté irrationnel, la foi absolue et l'importance des jésuites en Espagne, on va voir ça c'est ce côté aussi... alors là, radical de la foi espagnole, font qu'on va retrouver du baroque espagnol aussi. Mais alors là, c'est dans une surcharge totale. Effectivement, ça c'est sûr. Après, il y a ce qu'on appelle le rococo qu'on va trouver plutôt dans l'Est. Hein. Mais l'Autriche, c'est pas très loin, mais c'est un peu plus tard. Le rococo, c'est 18e surtout. C'est la structure décorative. Et alors, on va trouver le baroque aussi, alors, vous avez raison, en Espagne aussi, en Amérique latine. C'est le moment aussi de le 17e, l'âge d'or espagnol. C'est aussi le. Là, alors là aussi, il y a une démonstration de puissance, l'argent, la force, l'irrationnel. On est là pour.
Emporté. Par exemple, en Roumanie, tout ça.
Alors, je ne connais pas assez. Alors, en Roumanie, je crois qu'il y a aussi quand même une influence byzantine qui est encore très forte. Hein. Donc, tous les pays de l'Est ou slaves restent byzantins, orthodoxes. Donc là, on est au contraire dans la tradition byzantine très stricte. Donc, c'est vraiment l'Italie qui est le plus fort. Et effectivement, surtout l'Espagne de la conquête.
Peut-être qu'effectivement, les Roumains, ils sont catholiques. Hein.
Alors, justement, mais là, je sais
pas. Il y a une influence, oui.
Je sais qu'il y a des églises médiévales roumaines qui sont très belles, mais là, je ne connais pas. Faut dire que ça a été fermé pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que là-dessus, je ne sais même pas du tout de qui dépendait la Roumanie au XVIIe siècle. Pourquoi j'ai ça ? Ah, ça, c'est le Jésus de Rome. Alors, regardez aussi la différence qu'il peut y avoir. Ça, c'est une façade baroque très très sage. Le Jésus, il est tout près aussi de la place Navone. Alors, c'est une église jésuite. Alors là, on est limite renaissance baroque. Hein, parce que vous avez une façade plate. Il n'y a pas de façade concave. Mais on a quand même des décrochements. Par contre, à l'intérieur, alors là, le plafond est totalement. Donc, si vous voulez, on voit aussi selon l'époque qui avance, c'est une église qui a été baroquisée, on peut dire. La façade était relativement sage, et là, à l'intérieur, il a été décidé de la transformer. Alors là, c'est surtout le plafond à l'intérieur qui va être baroque. Dilatation de l'espace, dilatation des volumes, séduction. Alors là, on y va sur l'or, et on y va sur le trompe-l'œil à fond. Attendez. Ah. Et ce que je vous dis, alors, les drapés, les nuages, la lumière, qui sont autant d'éléments qui occupent l'espace. La lumière occupe l'espace, les nuages se dilatent dans l'espace, comme le cachet d'aspirine, etc. Et les drapés aussi déploient le corps. Donc, vous voyez, drapés, lumière et nuages vont être autant d'éléments qui vont permettre d'occuper l'espace. Et aussi, vous avez cette idée de flottement. Hein, on perd repère, on perd pied, au sens strict. Donc, peindre le plafond, c'est délibéré, cette idée qu'on perd pied, on s'envole, on est enlevé, et vous avez cette idée d'emportement. Alors là, c'est très logique, hein, l'art baroque, c'est que vous rentrez par la façade, et ensuite, vous êtes aspiré de façon très très claire, et même, ça, Michel-Ange l'avait compris dans le plafond de la chapelle Sixtine, vous perdez repère, c'est que vous n'avez pas de sens, au sens strict, vous pouvez tourner dans votre sens, il n'y a plus ni gauche, ni droite, ni haut, ni bas, parce que, vous, et en plus, à la fin, vous avez mal, votre corps lui-même n'est pas droit, il est tordu. Donc vous avez une sorte de souffrance pour pouvoir, et vous désirez quelque chose que vous n'atteindrez jamais. Une fresque de Giotto, vous pouvez vous en approcher, reculer, vous l'appréciez. Une peinture de la Renaissance aussi. Un plafond baroque, vous ne pouvez jamais vous en approcher. Donc vous pouvez juste le désirer. Et en plus, c'est là le côté un peu métaphysique du baroque, vous êtes à chaque fois confronté à votre corps qui vous fait souffrir, au fait que vous êtes sur terre, vous ne pouvez que désirer, etc. Mais par l'esprit, être emporté. Donc ça, c'est aussi le son des ténèbres aussi. C'est que dans l'art baroque, vous avez le côté lyrique, vous avez le côté aussi mortifère. C'est ça que l'on voit plus ici. C'est la partie sombre du baroque. Hein, c'est le côté de la souffrance, le côté des martyrs, le côté des scarifications, le côté de toutes ces espèces de violences baroques qu'on va retrouver aussi en Espagne. Les exercices spirituels de Loyola qui font qu'il faut tous les jours penser à la mort. etc. Dissection de cadavres, vous avez ça à Port-Royal, ils se partagent, quand un de leurs copains est mort, ils se partagent le cadavre. Tiens, tiens, tu vois, je t'ai broyé quelques morceaux d'os pour que tu puisses les mettre chez toi. Tiens, je t'ai gardé un morceau du cœur, tu pourras l'avoir, etc. Pour garder une partie de. Mais si, c'est vrai, hein, des textes là, les curés de Port-Royal, j'ai un texte que je. Et il dit, oh, tu vas voir, je t'ai gardé des petits trésors, notre cher abbé machin est mort, mais on a découpé son corps, on en a fait des petits bijoux, des petits trésors. Pour être marrant. Vous avez à côté aussi que, d'accord, Dieu, c'est immense, etc., mais nous, on a autre chose devant ça.
C'est limite de l'héritisme.
Hein, ah, oui, oui, bien sûr.
Parce que normalement, le corps doit être gardé intact pour l'apocalypse.
Oui, oui. Et de toute façon, ils sont dans un. Certains baroques sont dans l'excès. Oui. Donc, certains mystiques baroques, d'ailleurs, les grandes disputes aussi, certains vont trouver que justement, il y a des grandes querelles au sein même du catholicisme entre les jésuites, les jansénistes, etc., oui. Je ne sais plus qui encore, qui sont. Parce que certains poussent très très loin certaines logiques, justement, de la négation du corps. Ou, voilà. Donc,
Et on n'est pas loin non plus du cannibalisme.
Ah, bien sûr. C'est ce que Dali disait, hein, bien sûr. Dali disait que la religion catholique était cannibale, parce que prenez et mangez ceci encore, c'était le début du. Donc il faut dire ça aux vegans. Mais...
c'est intéressant parce que justement, les scientifiques sont en train de démystifier cette idée de cannibalisme, le blanc qu'on mange, c'est pas vrai.
Non, bien sûr.
On ne mange que les gens dont on souhaite s'approprier les vertus, et donc c'est pour ça que j'ai parlé de cannibalisme.
Cannibalisme mystique.
Mais oui. Apparemment, il ne serait que mystique. Et oui, en plus, on n'en parle pas. C'est-à-dire que dès qu'on est en train d'exposer un cannibalisme dans une peuplade du corps, là, on est dans l'invention, on est dans le n'importe quoi. Apparemment, le cannibalisme, on ne fait pas de publicité dessus.
Non, ils sont très discrets. Il y avait Herman Melville dans Mardi ou au Mou qui explique que. Justement, il était dans une réplique par une tribu, etc. Puis ils sont adorables, super bien traités, etc. C'est au bout de plusieurs mois qu'ils se rendent compte que parfois, une fois régulièrement, ils allaient dans un petit coin, etc. Et ils se planquaient pour pas le choquer, pour manger un peu de symboliquement quelque part, de quelques parties de corps humain, alors soit des ennemis, soit des anciens, etc. Mais ils voulaient surtout pas le choquer, parce qu'ils savaient très bien que ça pouvait le choquer. Et je viens de lire un autre, je suis passionné par le cannibalisme aussi, je viens de lire aussi un autre roman d'un voyageur qui est revenu, c'est une vraie histoire, qui est revenu, qui a passé 20 ans chez des cannibales, qui explique qu'ils étaient cannibales pendant à peu près 2 mois par an. Et là, c'était des orgies effroyables de cannibalisme et puis d'orgies de tout genre, etc. Et les 10 autres mois, mais c'était quasiment des mormons. Mmh. Et que c'était une manière de vivre une folie, des interdits ou de transgresser, et ensuite pouvoir vivre normalement, mais d'avoir laissé une part à une monstruosité. Donc, mais ce n'était pas du tout pour se nourrir.
C'est intéressant. C'est aussi la mystique du carnaval, quoi, je veux dire.
Ben oui.
C'est ce qu'on retrouve.
C'est, le carnaval, c'est le beau même. Hein, ça. Donc, ben, je continuerai, je ferai la prochaine fois. Ah, ben, la prochaine fois, on va à Venise.
Super, c'était une bonne idée.
Sauf que moi, j'y étais là 10 jours et je suis tombé dans l'aquarium la plus gigante. J'ai dû porter ma femme sur mon dos et rentrer pour aller à l'hôtel et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Ah oui, à Saint-Marc, j'étais une chose super bien. Parce que toute la journée avec des surbottes, etc. Et la seule manière pour rentrer. Et l'évaporer tout passer plus tard.